Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes mardi 28 février. Bonne journée. Bienvenue au 98.5 avec un peu de neige faible ce matin, moins 6 degrés. Et la prévision est assez claire. C'est de la neige parfois forte, donc par moment. Une accumulation de 10 à 15 centimètres avec des vents jusqu'à 40 km/h et le maximum aujourd'hui, plus 1 degré, le refroidissement éolien ce matin, autour de moins 12. La neige va cesser ce soir, il y aura un dégagement par la suite, un minimum de moins 6. Et pour ce qui est de demain, mercredi, 1er mars, ennuagement avec un maximum de plus 3 et possiblement encore un peu de neige dans la nuit de mercredi à jeudi. Il y a quelques centimètres qui devraient s'ajouter un peu plus tard cette semaine, mais la bonne nouvelle, c'est que vendredi, on prévoit au moins du soleil et moins 2 degrés. Et d'ailleurs, on a eu des précipitations dans des endroits assez étranges, en Californie, encore de la neige. Je voyais des images tantôt. Si vous prenez le cas, par exemple, de New York, où il n'y a pas eu de neige pratiquement depuis le début de l'année, là, il y a quelques flocons qui sont tombés. C'est de la neige lourde, là, de la neige mouillée. Mais donc, des endroits où normalement, il y a quand même des centimètres de neige, ben à d'autres places où c'est... disons tout à fait le contraire, on se retrouve cette année avec des températures quand même plus importantes. En Californie, se sont retrouvés avec des inondations, des tempêtes de pluie également, et vous avez eu des tornades hors saison en Oklahoma. Donc, il y a donc des ce qu'on appelle des phénomènes extrêmes de météo qui se produisent. Je pense que le Canada est en train de perdre complètement sa naïveté face aux Chinois. Tous les jours, dans le Globe and Mail, il y a une nouvelle concernant une fuite venant de Service canadien de renseignement et de sécurité. Ce qu'on nous apprend ce matin, c'est que les Chinois avaient dans la mire Justin Trudeau dès qu'il est devenu chef du Parti libéral du Canada. Et les Chinois le voulaient comme premier ministre. Monsieur Harper était en fin de règne. Ils ont donc déployé des efforts stratégiques pour soutenir M. Trudeau. Et ça passait, nous dit ce matin le Globe and Mail, par des dons, par des opérations de financement, entre autres des sommes d'argent versées à la fondation qui porte le nom de son père, la fondation Pierre-Elliott Trudeau. 200 000 $ sont allés pour différentes bourses. Plus de 750 000 ont été versés à la faculté de droit de l'Université de Montréal par un milliardaire. En fait, il y aurait deux donateurs, mais au moins un là qui aurait fourni le million, et le gouvernement chinois, par le biais d'un diplomate qui n'est pas identifié, aurait garanti un remboursement à M. Zhang, qui est implanté dans la région de Toronto, Zhang Bin, et qui fait beaucoup d'argent et qui est présent dans beaucoup d'activités de financement avec des politiciens. Alors, donc... on a versé des dons, ça fait l'objet d'enquêtes, il n'y a rien d'illégal en soi, mais là on découvre des ramifications entre les donateurs et le gouvernement chinois. Puis on a vu aussi à quel point la Chine a tenté de se mettre le nez dans le processus électoral au Canada en finançant directement des candidats. D'ailleurs, ce qui a fait hurler le premier ministre Trudeau hier, qui a dit c'est pas aux agences de sécurité de dire qui sera candidat ou pas. On comprend parce que un des candidats de M. Trudeau a fait l'objet d'une analyse de la part des services de renseignement et de sécurité. Puis c'est Global qui rapportait que aux élections de 2019, on aurait averti le Parti libéral que c'est un candidat qui pouvait être gênant en raison de ses liens avec des individus connectés sur le gouvernement chinois. Et M. Trudeau a dit, ben, c'est pas eux autres qui vont décider. Peut-être pas de qui est candidat, mais c'est le rôle quand même des services de renseignement de surveiller ce qui se passe et de voir si des candidats, des députés, des fonctionnaires peuvent être sous influence étrangère tout en ne le sachant pas directement. Et M. Trudeau a défendu son candidat. Il a dit d'ailleurs dénoncer toute forme de racisme contre les personnes qui sont membres de la diaspora chinoise. Là, on n'est pas dans le racisme, là. La Chine, pas seulement qu'au Canada, a développé des stratégies d'espionnage politique, industriel, de manipulation également, de processus électoraux. On a beaucoup parlé des Russes. Là, depuis quelques semaines maintenant, je pense qu'on commence à le réaliser avec les Chinois, puis toute l'histoire des ballons également. Et puis là, hier, Washington, Ottawa, Québec en soirée ont annoncé qu'on mettait un terme aux applications, à l'application TikTok sur les téléphones intelligents qui appartiennent au gouvernement. Alors, pourquoi? Parce qu'on considère, encore là, que TikTok, qui est un réseau social développé en Chine, représente un danger pour la sécurité. Parce que des infos circulent et toutes ces applications, c'est vrai pour Facebook, c'est vrai pour d'autres, là, mais TikTok, comme ce sont les Chinois qui sont derrière, on estime donc que c'est un risque inacceptable pour la vie privée et la sécurité. Alors là, on dit, et c'est vrai pour les Américains aussi, vous allez supprimer l'application de votre téléphone. Dans certains cas, on donne 30 jours pour le faire. La grande question ce matin, les politiciens qui utilisent beaucoup TikTok, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont encore présents, là, je pense. Fred me disait qu'à part M. Poilièvre des conservateurs, les autres sont là. Donc, M. Legault, Mme Lebel, des élus qui font beaucoup de promotion sur TikTok. Et le Parti conservateur a dû, suivre la même politique. Puis là, la question qui se pose, vous, qu'est-ce que vous faites avec votre compte TikTok? Pas tout à fait les mêmes enjeux qu'un téléphone gouvernemental, mais quand même, c'est clair que c'est une application contrôlée par un pays où ce ne sont pas les mêmes lois qui s'appliquent quant à la protection, par exemple, des informations confidentielles et de la vie privée. Et puis, si on veut terminer le volet Chine ce matin, beaucoup de discussions sur l'origine de la COVID. On vous disait hier que le département de l'énergie pense, mais n'a pas une preuve béton, mais tout laisse croire que la COVID serait en fait, la pandémie aurait pris naissance dans un laboratoire qui aurait eu un accident dans le laboratoire puis que le virus se serait répandu. La version officielle de la Chine, ça vient d'un marché public, ça vient du règne animal. On a tué les animaux, mais ça n'a pas empêché le virus de se répandre. Alors, qui dit la vérité? On sait que les Chinois ont pas tant participé ou ont pas aidé aux différentes enquêtes des organismes de santé. C'est préférable pour la Chine de dire, écoutez, c'est dans la nature, plutôt que de dire nous avons des laboratoires qui travaillent sur des coronavirus. Il y a déjà eu dans le passé des fuites, grippe aviaire par exemple, mais il n'y a pas de preuves. Et je faisais le tour ce matin de différentes sources là-dessus. Est-ce que ça vient vraiment de la nature, puis le virus s'est propagé vers les humains, ou si on jouait avec des virus en laboratoire, et qu'il y a eu donc un bris quelconque, et la pandémie a pris naissance de cette façon-là. Est-ce qu'on aura la réponse un jour? Pas certain. Parlons maintenant d'eau potable et de qualité de l'air. Hier, on a vu le résultat d'une enquête menée par Radio-Canada au sujet de l'eau potable dans 300 quelques villes au Québec. On découvre la présence de contaminants. Des contaminants potentiellement, je dis bien potentiellement cancérigènes. Hier, le directeur de la santé publique, le docteur Boileau, était à Radio-Canada, puis il a dit, on prend la chose au sérieux, mais on peut boire l'eau sans problème. Il n'y a pas de danger pour la santé des gens. Alors, ces contaminants qu'on retrouve, ça vient d'où? Ça vient de certains emballages, les revêtements en teflon. Il y a un paquet de produits de consommation qui utilisent ce type de contaminants dans leur fabrication, et ça finit par se retrouver dans la nature. Et puis, si la concentration demeure trop élevée, ben on associe ces produits à des cas de cancer, notamment des problèmes du système immunitaire. Alors, il semble que c'est élevé dans certains coins du Québec, d'après l'enquête de Radio-Canada. Saint-Donat, secteur de Lanaudière, Val-d'Or en Abitibi. Mais encore là, Dr Boileau répète, l'eau est très potable. Il n'y a pas de danger. Et la science semble assez claire là-dessus. C'est pas tout le monde qui pense la même chose. Il y a des gens qui sont plutôt, préoccupés. Environnement Québec suit ça d'assez près. Et le reportage va être présenté en enquête jeudi. Mais c'est clair que pour les citoyens du coin, notamment quand vous avez des approvisionnements en eau qui passent par une nappe phréatique, ça peut, être inquiétant. Mais là, vous avez cette garantie. Ça, c'est pour la qualité de l'eau. Maintenant, pour la qualité de l'air, on a appris hier que une journée sur cinq, à Rouen, l'air est de mauvaise qualité, attribuable évidemment aux émissions de produits toxiques de la fonderie Horn. Ça veut pas dire qu'une journée sur cinq, c'est néfaste pour la santé. Ça veut dire essentiellement que la qualité de l'air peut causer chez certaines personnes, appelons ça, des inconforts, que la mauvaise qualité de l'air n'aide pas des gens qui ont peut-être à la base des problèmes respiratoires. Et ce serait un des pires endroits au Québec en termes de pollution atmosphérique. Et là, on blâme le dioxyde de soufre qui est émis par la fonderie Horn en question. Vous remarquerez que depuis l'élection, on en parle beaucoup moins de la fonderie Horn. Hier, on apprenait ce plan pour amener 4 millions de passagers à l'aéroport de Saint-Hubert. On parlait avec le patron d'aéroport Saint-Hubert et aussi la mairesse de Longueuil, Mme Fournier. Mais les citoyens ont été pas mal surpris de ça. Ils s'attendaient, je vous dirais, à d'autres types d'investissements. Et là, c'est donc 4 millions avec l'arrivée de Porter puis des vols vers d'autres destinations canadiennes. Je comprends qu'une interdiction de vol de nuit, on nous dit que les appareils seront peut-être silencieux, mais il y a quand même, je pense, à première vue, deux éléments. D'abord, c'est un trafic aérien supplémentaire. Deuxièmement, les gens vont dire, ouais, mais quand tu vis à côté d'un aéroport, il faut que tu t'attendes à ça. Mais là, c'est un aéroport qui prend de l'expansion. Et les infrastructures routières qui amènent à l'aéroport, est-ce que ça laisse pas sous-entendre soit des investissements additionnels, soit quand même, je dirais, une certaine condensation automobile. Là. Une congestion, pardon, automobile, ça risque d'être important. Et puis, on apprend ce matin que Chrono Aviation poursuit Aéroport de Saint-Hubert pour 146 millions. Eux font des vols vers la terre de Baffin et ça vole de nuit. Puis c'est un gros porteur. Puis là, ils viennent d'apprendre qu'ils pourront pas voler la nuit. Donc, c'est un contrat de 100 millions, dit la presse ce matin. Et pour reprendre la citation, autant ils étaient certains que le contrat soit renouvelé, ben ils sont à peu près certains de maintenant le perdre. Alors, c'est ce qu'ils racontent. Je vous parle cette fois de fraude. Et on va parler avec Hélène Guilbeault, qui est enquêteuse, coordonnatrice, experte des cyber-enquêtes à l'Autorité des marchés financiers. Elle sera avec nous plus tard. Et là, on est dans le cas des fraudes de crypto-monnaies. Deux fois plus de plaintes qu'avant. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de fraude? Est-ce qu'on est plus vigilant? Et ce qu'elle dit, c'est super intéressant. Je lisais hier sa position, là. Essentiellement, elle dit que près de un de ses appels sur deux vient de gens qui ont déjà investi. C'est pas des gens qui disent, ça a l'air bizarre, là. C'est pas des gens qui s'informent sur le caractère sécuritaire de telle offre que vous retrouvez sur le web. Si on résume la démarche, les gens prennent leurs infos sur le web. Ils se font séduire par des plateformes, par des investissements faciles, ils se font séduire par des rendements faciles, et sans poser trop de questions, sans faire trop de vérifications, placent leur argent. Et puis quoi? Ben, ils se font arnaquer, ils se font voler. Puis là, ils paniquent. Puis c'est là qu'appelle l'Autorité des marchés financiers. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une fraude en deux temps. Je prends votre argent, je vous vole, et quand vous vous apercevez du vol, je vous offre un service de recouvrement pour vous voler une deuxième fois. C'est quand même assez spectaculaire. Alors donc, elle sera avec nous pour parler de ces nouveaux crimes. Est-il besoin de dire que, avant de placer de l'argent, puis quand ça paraît trop beau, toujours mieux de vérifier, notamment sur le site de l'Autorité des marchés financiers, à qui vous confiez votre fric, votre épargne? Et les gens se font avoir. Puis hein, on a eu un exemple hier de règlement de fraude. C'est la banque TD, c'est quand même pas rien, là, qui a dû verser 1,2 milliard pour régler le cas d'une chaîne de Ponzi qui implique un fraudeur qui s'appelle Stanford, qui avait créé une banque. De ce qu'on comprend, il a siphonné 7 milliards de dollars à des petits investisseurs. Madoff, c'était trois fois ça. C'est arrivé à peu près au même moment, fait que le gars est passé un peu sous le radar. Il a été condamné à 100 ans de prison. Et là, on essaie de récupérer. Et tout comme Madoff, bien que c'est pas un aveu de complicité de la part de la banque, les institutions financières, voyant autant de cash, ont permis à Stanford de fonctionner. Et donc, ça fait des années qu'on négocie, là. Je vous parle d'une chaîne de Ponzi qui remonte à il y a 14 ans. Et là, la banque dit, ben, on va régler pour 1,2 milliard. Le gars a tout dépensé pour un rythme de vie. Il est allé graisser des politiciens Antigua. Un jour, je me suis retrouvé en vacances à Antigua. T'arrivais là, puis il était pas connu, Stanford, mais il avait son stade de cricket. Il subventionnait des tournois. Il graissait, donc, je vous le disais, des politiciens. Évidemment, il est tombé en disgrâce. Mais c'était pour lui un paradis et tentait d'échapper à la justice. D'ailleurs, quand les mandats ont été mis pour l'arrêter, il a essayé de se pousser. Il a voulu neutraliser un avion. Puis on nous allait faire un virement garanti. Il dit non, je vais vous payer par carte de crédit. Puis il n'a pas pu sauver. Et c'est comme ça qu'on l'a arrêté puis qu'il a été finalement condamné dans cette affaire-là. Rapidement, quelques autres nouvelles. Québec qui veut serrer la vis à Spotify et à Netflix. Une volonté de protéger la culture québécoise. Pas certain que Québec peut le faire, là, parce que c'est une juridiction fédérale. Bon, M. Mathieu Lacombe bombe le torse, là, dit qu'il a envoyé une lettre à Pablo Rodriguez. Mais est-ce que vraiment Québec a le pouvoir en matière de radiodiffusion, puis en tout ce qui concerne les plateformes, de faire en sorte que les produits francophones soient mis en évidence? Peut-être, mais je serais assez étonné. Et il y a aussi Radio-Canada qui nous dit que Hydro-Québec trouve que l'idée de la Ville de Montréal de convertir et de faire passer les nouveaux bâtiments à l'électricité, donc de sortir le gaz naturel, c'est pas une bonne idée. À un point tel que Hydro-Québec prétend qu'on ne pourra pas suffire à la demande si on ferme la porte à l'approche bioénergie qui est proposée. Donc, la formule électricité, gaz naturel, parce que la demande, et surtout durant les périodes de pointe, sera beaucoup trop forte. On va aussi parler ce matin, notamment avec les commissaires des HLM, des budgets de rénovation. J'arrête pas de lire sur la crise du logement, puis sur les chicanes entre Ottawa et les villes. On n'arrête pas de nous dire qu'il y a de l'argent, mais en même temps, il manque d'argent, puis en même temps, les projets démarrent pas. Puis là, on se passe la rondelle. Puis oui, il y a une crise du logement. Puis oui, il y a des logements qui coûtent cher. Puis on a besoin de logements sociaux, puis de logements abordables. Puis là, vous remarquerez, là, si vous faites un survol rapide des médias, que tout le monde se passe la rondelle. Tout le monde s'accuse de pas faire son bout de chemin. Puis là, c'est Accès Logis qui va disparaître. La ministre trouve que ça ne fonctionne pas et qu'on doit procéder à autre chose pour faire en sorte que les projets atterrissent. Alors, on va vous en reparler tantôt. En Ukraine, situation extrêmement complexe à Bakhmout, c'est le président ukrainien Zelensky qui l'a dit. Et puis là, on revient avec les Chinois. Les Chinois qui, disons, sont des alliés des Russes dans toute cette histoire-là, continuent de transiger avec les Russes, mais veulent se donner une espèce d'image ou de rôle de médiateur. Vous savez qu'il y a des experts qui sont en train d'étudier le tremblement de terre en Turquie parce que sur le plan, quand vous regardez le genre de faille puis le genre de carte du sol, ça ressemble beaucoup à la Californie. Et on attend toujours le fameux Big One en Californie depuis celui qui a détruit San Francisco. Ben, on pense qu'il faut tirer des leçons de ce qui vient de se passer en Turquie. Ça fait pas mal le tour de nos manchettes.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Disons que la table est mise pour ce qui est des négociations dans le secteur public depuis quelques jours avec une série de déclarations. D'un côté, le premier ministre du Québec a dit, dans un message en fin de semaine, les syndicats sont rigides, je les invite à venir au forum qui ont été organisés par la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Il faut trouver des solutions et Mme Lebel, qui était notre invitée hier, entre autres, dit, ben, on peut plus négocier comme on le faisait il y a 50 ans, c'est devenu archaïque. Avec nous ce matin, Magali Picard, qui est la présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Madame Picard, bonjour.
Bon matin, M. Arcan.
Bon, Madame Lebel nous a dit hier, c'est pas un salon de thé là, auquel on vous invite, mais c'est vraiment une table centrale de négociation pour discuter de trois enjeux importants. Pourquoi vous voulez pas y aller?
Ben parce que moi j'ai une bonne nouvelle pour Madame Lebel. Ça existe déjà, ça. On en a une table centrale de négociation. Monsieur Arcan, premièrement, là, vous avez dans votre introduction, vous avez bien expliqué ce qui se passe. On nous a invités à des forums. On a dit, c'est pas le temps du blabla. Faut négocier. Ça urge en santé. Ça urge dans le réseau scolaire. Ça urge au niveau des services sociaux. Ça urge partout. Donc, on n'a pas le temps d'aller jaser. Faut négocier. Ça prend des décisions concrètes, rapides pour changer ce qui se passe. Et là, tout d'un coup, on entend sur vos ondes que ce n'est plus des forums, mais bien une table de négociation, une nouvelle table centrale de négociation. Monsieur Arcan, là, je suis extrêmement déçu de voir qu'on chicane comme ça partout au niveau de public, mais ça n'a aucun bon sens de changer les règles pendant que la partie est commencée.
OK, je vais faire quelque chose avec vous. Je fais entendre un extrait de l'entrevue que Mme Lebel nous a accordé hier. On écoute ça.
Ce que je veux, M. Arcan, c'est de trouver une façon plus efficace d'arriver à notre but. J'essaie pas de contourner quoi que ce soit, là. Je mets des solutions sur la table, puis à court terme, c'est la population qui attend. Donc, venez discuter de ces sujets-là. Venez au moins essayer d'en parler avec moi. Après ça, vous pourrez faire un diagnostic si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Mais on n'essaie même pas au moment où on se parle. Et moi, je propose, et pour l'instant, ben, je me parle à moi-même.
Mais pourquoi vous jasez pas avec Mme Lebel? Pourquoi il n'y a pas une discussion, là, puis pas du blabla, là, de dire concrètement, il y a trois sujets importants. Pourquoi est-ce qu'on les prend pas de front?
Mais pourquoi Mme Lebel vient pas à la table centrale? M. Arcan, ça n'a pas de bon sens. Écoutez, moi, je ne peux pas concevoir. C'est comme si je vous dis, on est échaillé. Vous savez que la convention collective, là, c'est sous une loi, hein? C'est légiféré. Il y a un cadre qui vient avec ça. On peut pas juste parler et que ça soit pas imputable ce qu'on propose là, puis ce qu'on met sur la table. On a vraiment l'endroit qu'il faut pour ça. Madame Lebel peut venir à la table centrale, parler de ses propositions. Je suis pas en train de vous dire qu'on veut pas entendre les propositions de Madame Lebel. Je suis pas en train de vous dire que c'est pas une bonne idée peut-être d'amener des changements dans ce qui existe actuellement. Mais on a tout ce qu'il faut. On peut plus perdre notre temps. Puis pourquoi ça n'a pas été fait avant l'échange des cahiers de revendication? Ils viennent de penser à ça. Écoutez, ça représente 600 000 travailleurs. Des dossiers énormes qui se passent. On le sait que ça va mal. Monsieur Arcan, moi, je vous le dis, personne n'a besoin de nous convaincre qu'on a besoin d'idées novatrices, qu'on a besoin vraiment de sortir des sentiers battus et d'arriver avec d'autres propositions. On en a des nouvelles propositions. Moi, je vais vous dire, là, vendredi dernier, Monsieur Arcan, vendredi dernier, on avait une table sectorielle qui est la santé, qui était en négociation. Notre monde à la table a dit au gouvernement, on entend parler de 700 millions de Mme Lebel, on entend parler de nouvelles idées, nouvelles approches. Puis vous nous en parlez, le 700 millions, là, est-ce que c'est sur un an, sur cinq ans? Bon, à qui ça touche? Savez-vous ce qu'on s'est fait répondre à la table de négociation? On n'a pas de mandat pour vous parler de ça. Moi, je vous dis, on peut plus gagner de temps, là.
OK, deux choses. La première, là, vous êtes à la FTQ. Il y a la FIC, il y a la CSN, il y a les autres syndicats. Moi, je pense que vous voulez pas aller à ce genre de rencontre, forum ou table de négociation, parce que vous voulez pas exposer vos divisions sur la place publique lors d'une rencontre comme celle-là. C'est bien mieux de négocier un petit bout dans son coin que de se ramasser face avec la présidente du Conseil du Trésor, où vous allez être d'accord sur une affaire, puis quelqu'un à la FIC va vous dire le contraire.
Ben écoutez, là, vous avez décrit les syndicats. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la FIC représente à peu près 90% des infirmières. OK? Donc, c'est facile. Là, ils sont pas mal tout seuls. Tous les autres syndicats, on est ensemble. C'est ça, le front commun. On n'a pas peur de ça. On est ensemble parce que, de toute façon, à la table centrale, ce qui est décidé touche toutes nos centrales. Donc, on s'est nous-mêmes rassemblés.
Vous êtes d'accord sur tout entre vous?
Ben, jusqu'à maintenant, moi, je vous dis, là, je rencontre mes collègues régulièrement et ça va très bien. On a fait le travail ensemble, on a fait le travail en amont ensemble.
Okay.
Nos tables sectorielles, la table centrale, là, ils se sont pas assis la semaine passée pour dire on commence ça à jaser, puis on fait une table parallèle. C'est déjà fait depuis longtemps, tout ça.
Mais
je comprends pas, tu sais. Oui.
Non, mais j'allais dire, vous me dites que parfait, vous me dites que ça va bien. Là, ce que je veux vous entendre.
La PTS. La CSM, la FTQ. Écoutez, c'est gros, ça, là. Bon, on est déjà, là. C'est déjà, le Front commun existe. On est ensemble et on est en train de négocier pour 600 000 personnes actuellement. Et il y a la FIC, oui, c'est vrai, mais qui, comme je vous disais, a de toute façon le leadership de à peu près toutes les infirmières au Québec.
Ouais, mais la CSN aimerait s'en reprendre quand même quelques-unes là-dedans.
Ah, alors ça c'est une autre bataille.
Non, mais c'est du maraudage, mais ça, c'est une autre affaire. Mais oui. Ce que je veux savoir, là, parce que vous me dites, on a des solutions novatrices, on a des propositions. Donnez-moi un exemple, là. Mme Lebel va entendre ça ce matin, puis elle va dire, wow,
alors,
là...
Je peux pas, parce que, vous savez, là, vous m'entendez, je dis partout... On peut pas négocier sur la place publique comme on fait.
Non, mais on peut pas juste avoir des slogans, genre, c'est extraordinaire, on a des idées, on a des propositions. Okay. Je sais même pas de quoi vous parlez.
Bon, écoutez, là, je vais peut-être me permettre, mais écoutez, monsieur le ministre Dubé disait, moi, ça va me prendre des salaires différenciés, hein? Ce qui est pas possible actuellement. Moi, je vous dis, venez en parler, là. Ça se peut qu'on ait quelque chose à vous proposer à ce niveau-là. Fait que c'est énorme, là, ce que je vous dis là, mais vous êtes le premier à qui je le fais, puis j'ai refusé de le faire jusqu'à maintenant. Ça doit être passé, M. Arcand. Non, mais je vous dis, quand je vous dis qu'on est prêt, pis c'est sérieux ce que je vous dis, pis si Mme Lebel et son équipe viennent s'asseoir aux tables, là, on en a des propositions.
OK, mais juste que les gens comprennent. Quand vous dites un salaire différencié, ça veut dire quoi, ça?
Non, j'irai pas plus loin que ça. Ce que ça veut dire, c'est que il y a des quarts de métier qui sont les mêmes, il y a des temps de travail qui sont différents. Je veux pas rentrer là, mais Sarkin, mettez-vous à ma place, là.
Okay.
Moi, je me braque contre le premier ministre et Mme Lebel parce que je répète, il y a un cadre légal. La négociation, ça doit se faire légalement de bonne foi. On ne peut pas parler comme ça publiquement. On a des recours contre le gouvernement parce que c'est ce qu'ils font. Je commencerai pas à faire la même chose. Je peux pas parler des deux côtés de la bouche.
Okay.
Mais toutefois, là, ce que j'invite le gouvernement, puis je suis déjà allé très loin, je sens déjà mon téléphone vibrer. Je vais avoir déjà des petits rappels pour me dire fais attention ce matin, tu vas trop loin. Mais ce que je peux vous dire là, c'est que c'est inconcevable ce qui se passe. On n'est pas autant de dire on revoit les stratégies, on veut un forum. Non, finalement, c'est une table parallèle. Moi, je sens vraiment que le gouvernement est en train de perdre le contrôle. Ce que je leur dis là, c'est revenez vous asseoir, il y en a une table centrale. On est prêt à écouter tout ce que vous avez à dire, puis on est aussi prêt à vous faire des recommandations.
Mais à la table centrale, bon, vous posez une question, êtes-vous là, vous, personnellement, à la table centrale?
Ben, on a nos équipes, vous savez, c'est pas moi qui négocie actuellement avec le gouvernement, moi, je suis la porte-parole, pour être honnête avec vous, on a des gens spécialistes de la négociation, comme le gouvernement, c'est la même chose. Si à la table centrale, on amène des idées, c'est même si moi, j'étais là, j'ai pas l'expérience. Très honnêtement, je suis pas sur le terrain.
Non, mais,
on a besoin des gens de terrain.
Non, mais donc, l'histoire enseigne souvent, sans que ça soit dans le détail, les grands principes se négocient entre le PM puis les présidentes centrales ou entre la présidente du Conseil du Trésor puis vous.
On l'a déjà fait, ce travail-là, de notre côté.
Bon.
Nos équipes sont prêtes à entendre. Je vous le dis sincèrement, là, je parle avec la négociatrice en chef de notre côté de la table centrale. Il y a de l'ouverture, là. On est loin d'être inflexible. Tout le monde est conscient, M. Arcan, à quel point il y a une urgence d'agir en santé et également dans le réseau scolaire. Il n'y a pas personne au Québec qui peut dire non, ça va pas si mal, on va négocier comme d'habitude, 2-3 clauses, tout va bien aller. Là. On est très conscient de
mais
ça
et
on veut faire partie du changement. Moi, ce que je comprends pas, c'est l'obstination à créer quelque chose de parallèle ou un forum alors qu'on a une structure en place qui est capable de répondre à tous ces besoins-là.
Okay, madame...
C'est déjà prévu, là.
OK, oui. Mais je veux dire une chose, et je vais traduire là l'ensemble des commentaires que je reçois depuis hier.
Ouais.
Les citoyens qui vous écoutent ce matin, là, ont envie de vous dire la chose suivante. Que ce soit une chaise en rotin, un banc de parc, que ce soit un salon de thé, que ce soit une salle grise d'un Holiday Inn, allez donc vous asseoir ensemble pour parler des problèmes qu'on a. Vos histoires de structure, puis est-ce que c'est le temps, puis est-ce que c'est si, puis le bon peuple, il s'en sacre pas mal. Il veut juste qu'on ait enfin des solutions innovantes, puis qu'on débloque sur le TSO, sur les agences, puis sur les classes où il manque de personnel. C'est tout ce qu'il vous demande.
Écoutez, j'en prends bonne note. J'espère que Mme Lebel en prend bonne note également, parce que vous savez, ça se passe des deux côtés, là, actuellement.
Tout le temps, il faut être deux pour danser.
Faut être deux pour danser le tango. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est facile de l'extérieur de dire, ben voyons, asseyez-vous, parlez-vous. Moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a un cadre législatif. Puis là, vous allez dire, vous êtes bien fatigante avec ça, mais il reste que on veut respecter la loi qui est en place également. Puis pour faire en sorte que ça aille mieux, on a décidé de travailler avec les autres syndicats puis de faire le front commun. Pour que ça aille mieux, on a des gens à la table centrale qui sont prêts à parler de tout ça. Donc, tout ça pour vous dire que on parle avec nos équipes à tous les jours, mais ce qui est clair, et ce que je veux que Mme Lebel entende, c'est qu'elle existe cet endroit-là, puis on est prête à l'entendre. Donc, il ne reste plus rien qu'à s'asseoir et à être présent.
Bon, ben, on chemine tranquillement. Merci beaucoup, Mme Picard.
Bonne journée, Mme Picard. Merci. Au revoir.
Magali Picard est la présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Très bien. Le Globe and Mail, c'est pratiquement une fois par jour, nous sort une nouvelle sur les tentatives de la Chine d'influencer, que ce soit les résultats d'élections au Canada ou encore, évidemment, des informations reliées, ce qu'on appelle de l'espionnage industriel. Ce matin, par exemple, on nous apprend que le Service canadien de renseignement et de sécurité avait découvert une opération tout de suite après la victoire de Justin Trudeau comme chef du Parti libéral, visant à amener M. Trudeau à être élu premier ministre du Canada et que pour tenter de, disons, sécuriser toute l'opération, on avait eu recours à un milliardaire qui devait financer, avec un don de 1 million, la fondation Pierre-Elliott Trudeau. Tout ça s'ajoute à ce qu'on a appris, par exemple, sur les opérations de financement pour faire élire certains députés, faire avancer l'agenda de certaines entreprises d'État de Chine. J'en parle ce matin avec Guy Saint-Jacques, l'ancien ambassadeur du Canada en Chine. Monsieur Saint-Jacques, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Bon, première question, de voir que les Chinois avaient identifié Monsieur Trudeau comme étant peut-être un premier ministre avec lequel ils auraient plus de facilité à s'entendre que le gouvernement conservateur. En soi, c'est pas une très grande surprise, ça.
En effet, parce que tout le monde en Chine aussi connaît son père, le Pierre-Elliott Trudeau, le rôle qu'il avait joué pour non seulement établir les relations diplomatiques entre le Canada et la Chine, mais aussi aider la Chine à reprendre sa place à l'Organisation des Nations Unies. Puis, bien sûr, c'est le rôle des diplomates à l'étranger de suivre les développements politiques dans les pays où ils sont. Puis dans ce cas-ci, ben, ils avaient identifié M. Trudeau comme un leader qui montait et donc quelqu'un qu'il fallait surveiller.
Bon, qu'est-ce que vous savez sur cette opération dont parle le Service canadien de renseignement et sécurité, là? C'est-à-dire faire affaire avec un milliardaire d'origine chinoise qui vit au Canada pour sécuriser un don de 1 million à la Fondation.
Oui. Bien, il faut dire que depuis que Xi Jinping a pris le pouvoir en 2012, il a augmenté de façon très importante les budgets d'une organisation qui s'appelle le Département du Front Uni, qui est chargé des opérations à l'étranger pour essayer d'influencer l'opinion publique, puis aussi de travailler au sein des communautés chinoises pour essayer d'éviter les critiques, puis d'aller chercher le maximum d'appui. Aussi, ils sont chargés d'opérations pour cultiver des liens avec des personnes importantes, soit de la classe politique, soit dans les milieux d'affaires, dans les milieux académiques, pour que tous ces gens-là puissent offrir un capital de sympathie, d'influence. Dans le cas de Jiang Bin, c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'étais ambassadeur, parce que je l'avais vu avec son oncle, M. Niu Gangcheng, qui a fondé une des grandes compagnies laitières là, en Mongolie intérieure, une compagnie qui est devenue multimilliardaire, qui avait d'ailleurs été impliquée dans le scandale de la mélamine dans le lait pour les enfants. Et puis, il m'avait dit, on va donner $1 million à l'Université de Toronto pour construire une statue à l'honneur de Norman Bethune, parce que beaucoup de jeunes Canadiens ne connaissent pas, puis ça va aussi créer des bourses pour que des jeunes Canadiens viennent étudier en Chine. Et puis, il m'avait dit, on va faire la même chose avec l'Université de Montréal, puis la Fondation Trudeau, parce que là aussi, pour honorer la mémoire de M. Trudeau. Puis, moi, je dois dire, ben c'est ça, d'un côté, c'est peut-être une bonne initiative de vouloir souligner la mémoire de ces deux personnes-là, mais en Chine, on se pose toujours la question d'où vient cet argent-là. Puis moi, je savais que, bien sûr, le gouvernement chinois augmentait le budget, puis j'avais toujours des doutes. Puis M. Jiang, c'est quelqu'un de flamboyant là, qui a acheté un vignoble dans le comté Prince Edward en Ontario, puis c'était pas clair qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Au juste, est-ce qu'il faisait juste bénéficier de l'argent de son oncle milliardaire? Ça fait qu'il y avait beaucoup de points d'interrogation.
Quand on conjugue tout ça là, et qu'on fait une espèce d'addition, là, ce genre d'opération, des opérations de financement pour soutenir des candidats, des campagnes d'information ou désinformation, là, ça dépend comment on prend ça. Est-ce que vous avez... Puis quand vous voyez M. Trudeau réagir en disant « Mon candidat, mon député, là, c'est pas vrai que les services de renseignement vont nous dire qui choisir. » Comment vous interprétez ça, ce type de réaction, devant pourtant une série d'événements dans les dernières années?
Mais moi, je trouve la position de M. Trudeau de plus en plus incompréhensible, parce que dans le cas de la Chine, c'est clair qu'il mène des opérations systématiques pour influencer puis interférer dans les affaires canadiennes. Puis on a la démonstration de ça. Ils interviennent sur les campus universitaires pour empêcher des débats sur des sujets que la Chine trouve sensibles. Moi, quand j'étais ambassadeur aussi, j'ai été mis au courant de manœuvres pour influencer des députés pour qu'ils n'aillent pas, par exemple, en visite à Taïwan. Et là, mais bien sûr, ça va beaucoup plus loin là, en se mêlant directement des élections, en favorisant certains candidats. Puis quand M. Trudeau dit ce sont les Canadiens qui ont voté, vous pouvez avoir confiance au système, ben je comparerais ça à un match de hockey où une des deux équipes, ses patins sont pas aiguisés, puis ça donne un avantage à l'autre. Ben c'est clair qu'il y a une des deux équipes qui gagne sur la glace, mais est-ce que les conditions étaient justes? Il faudrait tirer tout ça au clair, puis comme le disait Dick Fadden, Richard Fadden, l'ancien directeur du Service canadien de renseignement sur la sécurité, je pense que ça prend une enquête indépendante pour tirer tout ça au clair, parce que sinon, ça laisse trop de doutes, je dirais, sur l'interférence chinoise, mais aussi sur M. Trudeau lui-même. Et ça laisse des doutes les liens et, je dirais, c'est à son avantage de faire la lumière sur tout ça puis de tirer ça au clair.
Mais vous savez, c'est comme si on perdait, quand je dis on, là, je parle que les Canadiens perdent cette espèce de naïveté qu'on avait face... Par exemple, à la Chine, on a vu les Russes, par exemple, essayer d'influencer le résultat d'élections aux États-Unis. On pouvait pas imaginer que les Chinois avaient cet intérêt pour le Canada. Il y a quelque chose d'un peu... on tombe des nues, non?
Ben, en fait, c'est ça. C'est que encore là, c'est une... La Chine est très soucieuse de son image à l'étranger. Dans le cas de M. Trudeau, il savait que... ils espéraient que ce serait un leader bien disposé à leur égard, parce qu'il avec l'influence de son père. Puis aussi, ce qu'ils veulent dans tout ça, c'est qu'ils veulent avoir des gens dans des postes clés qui vont dire non quand c'est le temps de prendre des votes, par exemple, sur est-ce qu'il y a un génocide ou pas qui se déroule au Xinjiang, est-ce qu'il faut critiquer la Chine pour la disparition de la démocratie à Hong Kong. C'est que c'est ça qui est pernicieux. Et puis aussi, l'autre risque dans tout ça, c'est que ça affecte la crédibilité du Canada avec ses alliés, entre autres avec les cinq yeux, les Five Eyes. Parce que là, si nos alliés disent, bon, ben, est-ce que le gouvernement canadien est infiltré? Est-ce que on peut leur faire confiance? Est-ce qu'ils vont être vraiment avec nous? Parce que là, vraiment, on est engagé dans une lutte idéologique très importante avec la Chine.
En terminant, je prends juste l'exemple, je l'ai dit tantôt, mais le ministre François-Philippe Champagne, qui avait un emprunt hypothécaire avec une banque d'État en Chine, bon, devant la pression, il a mis fin à cette opération financière. Mais quand même, ça veut dire qu'ils sont un peu partout. Si je peux vous aider à financer une hypothèque, si je peux vous aider pour votre campagne de financement, ils disent présent, là.
Ben c'est ça. Puis effectivement, comme je disais tantôt, c'est des opérations systématiques là. Ils ont beaucoup d'argent, ils reculent devant rien pour acheter de l'influence. Et puis, je pense qu'on est rendu au moment où il faut tirer tout ça au clair. Puis aussi encore s'inspirer de l'exemple de l'Australie qui a adopté 4 lois pour contrer l'interférence chinoise. C'est, à mon avis, c'est la seule façon de procéder. Sinon, il y a un doute de plus en plus grand qui va persister.
Merci beaucoup, Monsieur Saint-Jacques. Bonne journée.
Bonne journée aussi.
Au revoir. Guy Saint-Jacques est l'ancien ambassadeur du Canada en Chine.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Puisqu'on parle des Chinois, ben on a appris hier que Washington, le Canada et le Québec en soirée ont décidé de faire disparaître l'application TikTok sur les téléphones intelligents, les appareils mobiles, là, des employés des gouvernements. Je vous dis tout de suite, là, la plupart des politiciens demeurent actifs, on leur compte, mais assez rapidement, pour ce qui est des employés, ben ce sera interdit. J'en parle avec Stéphane Hamel, qui est consultant en cybermétrie et cybersécurité. Monsieur Hamel, bonjour.
Oui, bonjour.
La première question, en quoi TikTok représente, pour reprendre les propos du gouvernement, là, une menace à la vie privée et à la sécurité?
Il y a plusieurs façons dont les données sont collectées. Évidemment, il y a des données, par exemple, sur la géolocalisation. Ça, c'en est un élément important dès le départ, mais aussi l'application va demander la permission d'avoir accès aux contacts des toutes les personnes là avec qui on est en contact dans notre bottin de référence. Il va avoir aussi de l'information sur les quand on est sur TikTok et qu'on visite des pages web, la page web va s'ouvrir dans l'application TikTok. Et à ce moment-là, l'application est capable d'injecter du code pour capturer toutes les touches qui sont tapées au clavier, entre autres, pour savoir sur quoi on a cliqué, des choses comme ça. Et par-dessus ça, ben l'application a accès à nos photos, nos vidéos, et souvent les publications qui sont faites sur TikTok, on voit le visage de la personne qui fait la publication, donc ça pourrait ouvrir la porte à de la reconnaissance faciale aussi. Donc il y a plein de façons là dont les données peuvent être utilisées pour éventuellement, on peut penser à des actions de ce qu'on appelle du blackmail, des menaces là de divulguer des informations, tout simplement collecter de l'information sur les déplacements des personnes, des choses comme ça.
Mais est-ce que TikTok collecte plus de données que d'autres applications?
Oui et non. Il y a d'autres applications aussi qui en collectent énormément. On peut penser à Facebook, entre autres, là, qui a pas toujours une très, très bonne réputation de ce côté-là. Mais la grosse différence, c'est que dans l'environnement nord-américain ou occidental, ben les lois sont là pour faire en sorte, pour protéger que le gouvernement peut pas indûment accéder aux données d'une entreprise. Il y a des mécanismes, il y a la loi qui est là, tout ça. En Chine, la compagnie relève essentiellement relève du gouvernement. À peu près tout va relever du gouvernement. Fait que s'ils demandent d'avoir accès à de l'information, l'entreprise mère de TikTok n'a pas le choix de donner l'information tout simplement. Fait que c'est là une grosse différence aussi.
OK. Donc, ça veut dire que si les applications, les différentes applications cueillent à peu près les mêmes infos ou un peu plus, le fait que ça soit en Chine, c'est problématique.
Ben effectivement, c'est ça. D'ailleurs, le Forbes a dévoilé là que il y a des journalistes qui ont été suivis, la géolocalisation a été suivie pour essayer de découvrir des sources journalistiques qui avaient dans des reportages là qui étaient pas favorables à la Chine. Donc il y a des précédents de cas où les risques se sont avérés réels là pour non seulement pour influencer ce qui était le sujet précédent, là, d'influencer les élections, des choses comme ça. Évidemment qu'on a tellement d'informations au sujet des éléments sensibles d'une population, mais on est capable de faire des publications qui sont tellement bien ciblées, qui vont devenir, c'est pas seulement de la désinformation, c'est de la propagande, c'est de la manipulation, ça peut aller très très loin.
Bon, là, la décision, évidemment, vise les employés de l'État, que ce soit au fédéral ou encore les employés du gouvernement du Québec. Mais quelqu'un, un citoyen là, qui vous écoute ce matin, qui dit « Ben moi, j'ai ça TikTok, est-ce que j'ai intérêt à m'en débarrasser? »
Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui disent « Ben non, on est un citoyen, on n'a rien de particulier à cacher ou quoi que ce soit. » Mais on peut penser, par exemple, à n'importe quelle entreprise qui fait affaire avec le gouvernement. Aux États-Unis, dans certains États, là, la loi va pas seulement empêcher les travailleurs de l'État d'utiliser TikTok, mais aussi n'importe quel fournisseur du gouvernement. Donc, ça, c'est un premier niveau. Deuxième niveau, c'est même si on n'a rien de particulier, dans notre travail, on a peut-être des choses qu'on préférerait que les gens ne sachent pas, des secrets d'entreprise, des choses comme ça, par l'accès, étant donné que TikTok voit toute notre navigation, là, qu'est-ce qu'on va aller voir, ou la recherche, ou même capturer des mots de passe, des choses comme ça, la capacité technique est là. Est-ce qu'ils le font? Disons que on n'a peut-être pas la preuve de ça, mais la possibilité est là. Fait, oui, moi, je pense que même pour les individus, le risque est toujours présent.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que là, on a une décision qui concerne l'État, mais beaucoup de gens développent des relations avec la Chine, des entreprises chinoises, il y a de l'exportation, je pense qu'on a atteint en termes d'échanges commerciaux, c'est 100 milliards. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui font affaire avec la Chine et on serait tenté de dire les Chinois vont maximiser la cueillette d'infos sur ces gens-là.
Oui, ben absolument. Un dirigeant d'entreprise, par exemple, qui ferait affaire avec la Chine, ben ça pourrait être tentant d'aller chercher un peu plus d'informations que ce qui serait éthiquement acceptable dans notre environnement d'entreprise. Il y a aussi le risque pour les individus. L'autre risque, c'est la propagande, la manipulation, des choses comme ça. L'été dernier, là, il y a des milliers de comptes TikTok qui ont été éliminé finalement. Au moins TikTok a fait ça, mais qui étaient carrément des faux comptes qui étaient créés pour faire de la propagande russe auprès des Allemands, des Italiens, des Anglais, mais avec des publicités ou avec des contenus qui étaient tellement hyper ciblés que on s'en rend pas compte, évidemment, mais on est manipulé par les contenus que TikTok va nous présenter.
À votre connaissance, est-ce qu'il y a d'autres applications qui représentent le même potentiel de risque ou de danger que TikTok?
Je dirais que oui, mais peut-être pas à la même ampleur. C'est tout le temps une évaluation du de la probabilité ou du degré de risque que ça représente. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres applications là qui sont dans le radar en ce moment là, pour interdire par nos élus, par les personnes dans un système démocratique. Là. À ma connaissance, il n'y en a pas d'autres, mais je pense que la porte est ouverte pour se questionner sur l'utilisation de certaines applications par des gens qui sont en position d'être manipulés ou influencés. Là.
Merci beaucoup, M. Hamel.
Ça me fait plaisir.
Merci, au revoir, bonne journée. Stéphane Hamel est consultant en cybermétrie et cybersécurité.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
On va parler maintenant de la qualité de l'eau potable. Pourquoi? Parce que Radio-Canada a fait une enquête et les résultats ont été rendus publics hier, une vaste étude qui montre des concentrations élevées de certains types de polluants dans l'eau potable. Et on pense à des endroits plus précis comme Saint-Donat, Lanaudière, Val-d'Or également, en Abitibi. Donc, présence de contaminants. Réponse de Québec, il n'y a pas de danger, l'eau est de qualité. Le docteur Luc Boileau, directeur national de la santé publique, est avec nous. Docteur Boileau, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, quand on parle là, de ces contaminants dans l'eau, on parle de quoi exactement?
Ben, on parle de contaminants qui sont partout sur la planète. Ce sont des produits qui ont été développés dans les années 40-50 et qui sont encore utilisés. Et qui sont des produits très très résistants. Alors ça fait en sorte que dans l'environnement ils résistent très longtemps. Ils peuvent résister aussi dans notre corps. Et ce sont des produits là d'imperméabilisation comme du Teflon, du Gore-Tex, des choses comme ça. Alors ce sont des produits qui sont très très fins évidemment. Et puis qu'on peut accumuler et qui se répartissent actuellement sur la planète entière. On en trouve au Nunavik, dans nos poissons ou en Arctique. Puis on en trouve aussi dans l'eau potable un peu partout dans le monde, incluant au Québec. Et c'est ce qui a fait l'objet des études récentes là, faites par des chercheurs en compagnie du ministère de l'Environnement. Ils ont caractérisé les charges qu'on retrouve là-dedans de ces polluants-là. Puis nous, du côté de la santé publique, on a regardé ça avec eux. D'abord, c'est pas un sujet nouveau. Là. Ça fait des années là, que ce sujet est connu. Mais au moment où on se parle, on n'est pas dans une zone d'inquiétude. Là. Les gens peuvent boire l'eau potable au Québec et on n'a pas aucune contrainte à cela. Vous avez mentionné deux localités. Il y en a quelques-unes. Il y en a peut-être quatre ou cinq. Elles sont... Bon, Val-d'Or, c'est tout un utile réglé là, parce qu'il y avait un puits d'approvisionnement qui était plus qui en possédait plus. Alors, ils ont ajusté cela. Donc, les gens de Val-d'Or peuvent boire l'eau potable sans difficulté. À Saint-Donat, j'étais avec le maire de Saint-Donat hier en fin de journée. Et puis, on considère que l'eau est potable. Il n'y a pas de souci actuellement. Bien sûr, on ne veut pas que ça continue à des taux élevés pendant des années. Donc, il y a des efforts à faire. Et tout le Canada se met de l'avant de nouvelles règles du jeu autour de ça pour tendre vers des niveaux plus bas. Mais il n'y a pas une urgence là à agir immédiatement puis à dire aux gens de ne pas boire l'eau potable. Pas du tout. Là. Les gens peuvent boire l'eau potable. L'eau au Québec est de qualité. Le ministère de l'Environnement, les municipalités, en tout cas dans le système d'approvisionnement, font tous les efforts pour ça. Ils font un excellent travail. C'est ce que nous observons. Alors, nous, on n'est pas soucieux de cela. Par contre, on est très intéressé à ces questions-là puisque elles sont nouvelles là, dans l'espace scientifique, relativement nouvelles dans l'espace scientifique. Et c'est pour ça que on s'occupe de tout ça comme il faut, mais on n'est pas à ce stade-ci inquiété d'une manière telle qu'on dirait aux gens de ne pas boire de l'eau potable offerte par les municipalités, pas du tout.
OK, sans nécessairement le dire « je bois pas de l'eau », est-ce que l'utilisation d'un filtre, ça peut être utile?
Ben, les gens peuvent faire ces choix-là. Vous savez, il y a plein de choix qui sont faits dans la vie pour différentes choses. Bien sûr, il y a des filtres qui peuvent diminuer une partie de ces produits-là, de les PFAS, mais ça ne fait pas partie de nos recommandations de dire on vous recommande d'installer des filtres, on n'est pas là. S'il y en a qui veulent l'utiliser, ben c'est comme ils veulent, là, bien sûr, mais nous, on n'est pas dans cette disposition-là. Il y a des gens, il y a des scientifiques, et on les entend, qui sont préoccupés. Bon, c'est correct, là, ils peuvent être préoccupés, mais nous, donc notre expertise en impact sur la santé, puis en maladie là, acquise, tout ça, on connaît ça, puis on connaît pas tout, parce qu'il y a des choses qui seront découvertes au fil du temps. Il y a des produits qui sont qu'on ne veut pas, qui sont dangereux. Vous savez, on n'en produit pas hein, au Québec, on n'en fabrique pas là ici, mais on est exposé à ça. Mais il y en a quelques-uns, là, deux, trois, quatre, là, qu'on appelle les PFAS Legacy, eux autres sont sont plus préoccupants. Alors, il y a des normes internationales pour les interdire, un point, c'est tout. Mais ils sont toujours là. Alors, celui-là, il faut être un petit peu plus préoccupé.
Là, vous pensez à quoi quand vous me dites ça?
Ben, je pense, vous parlez de...
De ces produits là, legacy, vous avez dit?
Les PFOS legacy, mais en fait, c'est les PFAO puis les PFOS. Là, je ne veux pas rentrer dans les acronymes qui sont utilisés, mais ce sont des produits, eux autres, sont plus documentés. Et nos experts au Québec, là, du ministère de l'Environnement ou de l'Institut national de santé publique, nous confirment que ceux-là peuvent avoir un impact sur la santé. Les calculs ont été faits ainsi, mais ils sont pas à des taux qui sont actuellement préoccupants dans l'eau potable au Québec. On n'est pas là. Il y a de la documentation qui se passe. Aujourd'hui, encore dans la presse, il y a un article qui sort sur des effets sur peut-être les taux d'anticorps, mais c'est marginal. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'effets actuellement qui nous invitent, et je me répète, je sais, là, à dire aux gens de ne pas boire l'eau potable. Ça irait pas bien avec mon nom d'abord, mais ça irait pas bien aussi avec la logique de santé.
Mais ce matin, là, je regarde ça, vous avez dit coïncidence peut-être. Là, on parle de l'eau potable. Je lis également, pour ce qui est de Rouen, la présence de particules dans l'air. Puis en gros, on nous dit que une journée sur cinq, l'air est de mauvaise qualité à Rouen. Ça veut pas dire que ça empoisonne le monde, mais ça veut dire que la qualité peut-être... C'est pas terrible, puis qu'il y a des gens qui sont plus sensibles en ressentent certains effets.
Oui, mais c'est un tout autre sujet, là.
Je sais.
Mais il y a eu d'énormes changements qui se sont produits il y a plusieurs années autour de ça. Ça a coûté une fortune pour essayer de recapter ces produits-là avant leur expulsion par les cheminées. Avant, c'était les gens vous en parleraient, là. Il y avait l'impression de mâcher du souffle, là. C'était l'expression qu'ils avaient là-bas. On n'est pas dans ce qui c'était avant, mais c'est un sujet de préoccupation très légitime pour les gens de Rouen, comme dans d'autres endroits. Vous savez, il y a d'autres endroits au Québec où on a de telles expositions. Donc, il ne faut pas faire exprès d'exposer nos gens à des polluants, surtout pas. Mais actuellement, pour l'eau potable, je me répète, là, pour l'eau potable, on n'a pas cette inquiétude-là. Par contre, M. Arcan, ce sujet-là est important parce que, vous savez, les gens, c'est pas en buvant de l'eau surtout là, qui cumulent ces produits-là, c'est surtout en mangeant. Il y a même des produits de beauté là, qui en ont, qui peuvent être absorbés par la peau. Alors, on est en train de tout caractériser ça au Québec avec la complicité du ministère de l'Environnement en particulier, du MAPAC aussi. Là, il y a des efforts qui sont faits pour mobiliser toutes les forces vives du gouvernement pour ce sujet-là. Mais nous sommes en train de tout documenter ça comme il faut. Mais en ce qui a trait à l'eau potable, nous ne sommes pas dans une situation qui nous invite à dire « wow ». C'est plutôt une situation qui nous invite à dire « écoutez, il faut faire attention à cela ». Puis comme vous le dites si bien, c'est des préoccupations qui sont légitimes, on doit s'y attarder, et c'est ce que nous faisons.
OK. Mais là, quand vous me dites par la nourriture, par exemple, il y a eu, puis j'imagine que le débat continue, la recherche continue, là, mais tous ces contenants de plastique qu'on utilise au micro-ondes, par exemple... Je voyais une émission la semaine dernière qui disait que vous devriez peut-être utiliser des contenants en verre, c'est moins dangereux. On en est où là-dedans?
Bien, on en est sur des analyses et des recherches qui sont faites sur une base internationale. On ne fait pas ça juste ici au Québec. Là. Ce sont évidemment des dispositions scientifiques qui sont menées partout pour justement essayer de ramener des habitudes de consommation, des habitudes de vie là, dans la consommation alimentaire qui seront les plus sécuritaires possible. C'est sûr que nous, en santé publique, on est préoccupé par la qualité alimentaire de façon générale. Ce que les gens mangent, bien, ça va induire toutes sortes de dangers, vous le savez bien, là, de toutes sortes de natures. Mais pour ces aspects-là, on est là-dessus aussi. Mais on n'a pas de recommandations ce matin à vous faire à cet effet. Il y a encore de la science à aller porter autour de ça. Puis, des éclairages qui méritent d'être complétés.
Parfait. Merci, Dr. Boileau. Bonne journée.
Merci, monsieur.
Au revoir.
Bonne journée.
Docteur Luc Boileau, qui est le directeur national de santé publique.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.